Aujourd'hui, la masterclass de Cynthia Fleury avec Émilie Aubry.
Bonjour à tous, aujourd'hui France Culture vous propose une masterclass avec Cynthia Fleury. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Nous allons donc passer près d'une heure ensemble pour comprendre comment on devient philosophe et psychanalyste. Et c'est sans doute, je crois, le croisement de ces deux disciplines dans votre vie et dans votre œuvre qui va nous occuper un certain temps. Du temps, je me suis dit en préparant cette masterclass que vous deviez en manquer beaucoup dans votre existence, puisque si j'ai bien compris, dans votre vie, vous devez aménager à la fois vos consultations avec vos patients, tout en écrivant, je crois, chaque jour, en publiant très régulièrement. Votre dernier ouvrage, Sigil amer, est paru chez Gallimard, on en parlera sans doute. Vous êtes également professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé du Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous dirigez la chaire de philosophie au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Vous faites partie du Comité consultatif national d'éthique et je pourrais citer d'autres engagements. Je dis d'ailleurs le mot engagement dans tous les sens du terme. Vous avez contribué à fonder un mouvement politique, vous siégez parfois dans des conseils d'administration. Bref, aurons-nous assez d'une heure pour comprendre la genèse de toutes ces vies, de toutes vos vies? Alors peut-être le plus simple, au fond, c'est de commencer par le commencement. Vous êtes née Cynthia Fleury en 1974 et vous avez un jour confié à France Culture, à Géraldine Mosnin-Savoie, je crois, qu'au fond, vous aviez commencé à faire de la philosophie sans le savoir vers 13-14 ans parce que vous vous intéressiez au langage, à l'écriture, aux idées, aux arguments, aux concepts. Est-ce que cela vous renvoie à un souvenir en particulier que vous pourriez nous raconter pour démarrer cette masterclass? Un souvenir d'enfance qui serait déjà une expérience philosophique?
Alors c'est difficile de répondre à cette question, puisque juste avant le commencement, on a eu un échange sur une de mes pathologies, qui s'appelle l'absence de mémoire. Et donc, c'est vrai que c'est difficile pour moi d'avoir des souvenirs. J'en ai, hein, de fait. Puis de toute façon, je vous disais, il a bien fallu que j'aille à l'école. Donc, mais parce que j'ai aucun souvenir réel des classes, c'est très très loin, on va dire. Et donc, non, j'ai pas de souvenir spécifique, mais quand je refais comme ça de façon assez théorique le calendrier de ma vie d'enfant, d'adolescent, etc., je sais que à tel moment, il y a eu l'entrée en écriture. Et que ce moment-là, c'était effectivement 13-14 ans. Et je me revois quand j'étais en thèse, plus tard, quand je suis rentrée en thèse, récupérer des carnets que j'avais écrits à ce moment-là pour tirer 2-3 idées et pour les mettre dans métaphysique.
Qu'est-ce que vous écriviez dans ces carnets à 13-14 ans?
J'avais absolument aucune capacité d'écriture de fiction. Je mets vraiment la fiction au sens de la littérature, etc., au-dessus de tout, la poésie, etc. Donc c'était bon. Et ce que j'écrivais, c'était tout simplement, vous l'avez dit, des formes de raisonnement, des formes de vision de ce que je pouvais voir, comprendre, des échappées, d'une certaine manière. En fait, cette écriture, elle était assez indissociable de ce que je pouvais faire. Je la pensais pas comme écriture, si vous voulez. Je me mettais pas dans l'idée que j'étais en train d'écrire. J'écrivais comme je lisais et je me rendais compte que ce territoire-là du langage, précisément, était un territoire, pour moi en tout cas, capacitaire. Au sens où je l'ai développé par la suite et sans doute que je devais considérer à l'époque que le territoire non langagier était pour moi un lieu incapacitant, ce qui était sans doute le cas. Et donc, résultat, par sans doute pragmatisme et sens de l'autoconservation de moi-même, j'ai choisi le terrain du langage.
Pas si vite. Étiez-vous une grande lectrice?
Oui, alors j'étais une grande lectrice, très très grande lectrice, mais tardive, entre guillemets, dans le process. Je veux dire, pareil, je me souviens très très bien. Alors ça, vers 7 ans, c'est là où vous commencez à lire, etc. Et moi, j'avais tous mes petits camarades qui lisaient des vrais livres pour enfants. Vous savez. Et moi, ça me tombait des mains. Donc c'était une horreur. Et donc j'allais comme je pouvais notamment vers la bande dessinée qui, à mon époque, n'avait pas le statut qu'elle a aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes tranquille, vous pouvez lire tout ce que vous voulez, c'est considéré absolument, à juste titre, comme un art, etc. Mais à l'époque, c'était considéré comme vraiment...
La sous-littérature.
La sous-littérature, vous étiez mais vraiment l'enfant absolument indigne du désir des parents. Et donc,
parce que c'était des parents qui vivaient au milieu des livres ?
Oui, quand même. Oui, et donc bon, alors j'avais une mère qui ne lâchait pas de toute façon la chose et qui continuait de remplir avec quantité d'ouvrages. Donc j'avais une bibliothèque, mais je ne lisais pas. Bon, alors parfois on me menaçait de retirer les livres. Je disais ah non, alors on me disait mais tu ne les lis pas. Oui, mais non. Donc j'avais un sens de la possession déjà extraordinairement, mais en revanche l'intellection.
Donc, m'était... Vous êtes en train de nous dire, Cynthia Fleury, que vous avez passé votre adolescence à lire des bandes dessinées en pensant déjà au concept ?
Alors, pas du tout. Je suis en train de nous dire qu'à 7 ans, je sais qu'on a aujourd'hui des visions de l'adolescence préadolescente, mais malgré tout, 7 ans reste 7 ans, et que de 7 à 10 ans, j'ai de fait lu essentiellement des images. Des images avec des mots à côté, etc. Et puis, je suis arrivée en 6e, et là, je me suis fait attraper par un professeur qui m'a dit « Vous, j'ai repéré, vous lisez pas. » Puisque quand même, il fallait lire en 6e. Et donc, pareil, ça me tombait des mains. Je vais pas dire les auteurs qu'on lit en 6e, mais ça me tombait des mains. C'était mon erreur et c'était mon insuffisance. Mais il n'empêche que je n'arrivais pas à rentrer. Je me rappelle, sur les vendredis, par exemple, vous savez, les vendredis ou les limbes du Pacifique, enfin bref, les choses qu'on vendredi ou la vie
la
sauvage. Ça m'étreint. Et donc j'étais en absolue panique, et donc je vérifiais avant le moment, vous savez, où vous devez prendre la parole en classe, donc j'attrapais les élèves, et je leur disais, donc toi, ceci, cela, donc toi, t'as aimé quoi, machin, donc je faisais un petit peu un brainstorm de tout le monde, et puis j'arrivais, puis je prenais la parole, et puis je m'en sortais, parce que, bon, c'est comme ça. Et puis il y en a un qui m'a chopé en disant, bon, j'ai vu... C'est très bien, mais enfin, non, quand même. Et il faut faire un peu autrement. Et j'ai dit, mais moi, je veux bien faire autrement, mais est-ce qu'on peut faire autrement ? Et il m'a dit, et en l'occurrence, plus tard, c'est une femme, en l'occurrence, et ça, je m'en souviens très bien, je peux même la nommer, elle s'appelle Madame Peraldi.
Oui, ça me professeur revient. De français ?
Professeur de français, Madame Peraldi.
En quelle classe, au collège ?
Ça doit être 6e ou 5e, je ne sais pas, par là. Et donc, elle était absolument, assez extraordinaire. Et donc, elle m'a dit, écoutez, faites votre liste de livres. Et donc, j'ai fait une liste où il y avait essentiellement des auteurs, je ne sais pas pourquoi, mais parce que c'était ceux qui étaient dans ma bibliothèque, des auteurs étrangers. J'ai fait cette liste, elle me l'a validée. Et là, en revanche, à partir de ce moment-là, donc 10-11 ans, j'ai lu beaucoup et j'ai lu... un livre par jour.
Mais alors, quels étaient les auteurs de cette liste ?
Ah, les auteurs de cette liste, c'était Stefan Zweig, c'était Tolstoï, c'était Tourguenieff, c'était Schnitzler, c'était, je ne sais plus, Kawabata, c'était...
En cinquième.
Oui, mais des choses aussi plus américaines, Carson McCullough, c'était tout ça. C'était la découverte de la... Moi, j'aimais le style. C'était David Herbert Lawrence qui est quand même mais c'était pas l'amant de Lady Chatterley, c'était un texte qui s'appelait Le Renard, un tout petit texte comme ça, une métaphore sur un homme et un renard qui arrivent dans l'univers comme ça de deux femmes qui vivent ensemble. C'était Vita Sackville-West qui a été longtemps un de mes auteurs préférés avant Woolf et Dreyfusis et des gens comme ça. Donc voilà, j'ai découvert et là en revanche j'ai lu et je n'ai pas arrêté. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la lecture a été essentielle dans ma vie. Et les auteurs français, je les ai récupérés beaucoup plus tard, avec plus de maturité sans doute, vers l'âge de 17 ans.
C'est-à-dire toute cette littérature française du 19e,
exactement.
En principe,
et là, j'ai basculé dans Balzac. Ouais, là, j'ai basculé dans Balzac, mais infiniment, dans Marivaux, bien sûr. Alors, le théâtre, j'étais rentrée déjà en 4e, parce que c'est généralement par là. Là, il n'y avait pas eu de soucis. Mais Zola, même, je ne suis pas une grande fanatique de. Mais voilà, là, j'ai. Et puis, bien sûr, Proust, qui a été une découverte vraiment très, 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 très importante pour moi. Donc là, la lecture, c'est devenu un allié absolu. Absolue. Et j'essaye vraiment de d'emmener tous ceux que je peux croiser. Alors bon, pour le coup, en tant que professeur, j'ai des élèves plus âgés, donc qui ont déjà fait ce chemin d'entrée dans la littérature.
Ils sont déjà arrivés vers le livre.
Voilà, il n'y a pas de souci. Mais parfois, je vais chez mes collègues enseignants du primaire, du secondaire, voire de la maternelle, etc. Enfin, tous ceux qui sont avant nous et avec qui nous formons un lien important dans l'enseignement. Et là, j'essaye de démontrer, de raconter comment on se saisit de cet univers du langage.
Est-ce que vous vous souvenez, même si vous dites être un peu amnésique, est-ce que vous vous souvenez, Cynthia Fleury, de votre année de terminale, lorsque réellement, de fait, vous rencontrez la philosophie? Est-ce que les gens qui deviennent philosophes ont forcément croisé sur leur parcours de terminale un professeur de philosophie exceptionnel?
Non. Alors, non.
La vraie rencontre, c'est plus tard, c'est en Hippocagne, en
Cannes. Oui, c'est pour ça que là aussi, je pense que c'est important de comprendre très très tôt qu'il faut. C'est merveilleux de rencontrer des grands professeurs, extraordinaire. Et c'est une chose, c'est une chance, vraiment. Mais ça ne peut pas être une condition. Ça ne peut pas être une condition, sinon vous vous mettez dans la main vraiment de malgré tout d'un arbitraire. Et on peut pas se fermer la porte à la philosophie, à la littérature, simplement parce qu'on n'a pas eu la chance, à un moment donné, de rencontrer un tiers qui nous a aidé à traverser cela. Et donc, moi, très très rapidement, je me suis dessaisie de cette obligation d'avoir un autre. Parce que, voilà, il s'avère que, en revanche, c'est vrai que quand on a un autre, et j'en ai eu, mais c'était très tard, c'était vers la fin. J'ai eu un professeur en Cannes qui était extraordinaire, qui s'appelle Christian Jambet, bon, et qui était profondément d'une singularité, d'une intelligence, d'une érudition. C'était autre chose, vraiment. C'était un esprit supérieur. Et puis j'ai eu plus tard encore mes directeurs de thèse. Vous voyez, donc c'est vraiment très 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 tardif. J'ai eu Pierre Magnard.
Alors justement, peut-être on peut parler d'ores et déjà de Pierre Magnard, qui a été l'élève lui-même de Merleau-Ponty, de Bachelard, qui a été le collègue de Bourdieu, le contemporain de Michel Foucault. Tous ces étudiants disent à quel point c'est une expérience incroyable que de l'avoir eu comme enseignant. Et lui se présentait d'abord et avant tout, je le cite, comme un maître d'école. Il disait: je me présente comme un maître d'école, non pas comme un maître à penser, surtout pas, mais un maître d'école au sens de l'école primaire de Jules Ferry, celui qui considère que toute sa dignité est d'apprendre à penser aux jeunes qui lui sont confiés. Apprendre à penser, est-ce que c'est une bonne définition de la philosophie?
Oui, c'est très clair. Et c'est très vrai chez Pierre Magnard. Moi, je comprends ce qu'il veut dire lorsqu'il dit maître d'école, parce que il, bien évidemment, érudition maximale autour de ses auteurs de prédilection, et on avait en plus, notamment, parce que moi j'ai fait ma thèse sur des platoniciens de la Renaissance, donc par exemple, on avait un auteur en commun, qui était Marcel Ficin. C'est un très 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 grand spécialiste de Marcel Ficin, de Léon Lébreux, de Charles de Beauvel, de bien sûr de Montaigne, de Pascal, etc. Voilà, c'était quelqu'un qui invitait les uns et les autres à produire en eux-mêmes effectivement un certain type de raisonnement, même si il allait au plus profond des textes pour expliquer et puis aussi donner sa version. Et puis c'était un espace grandiose de liberté. D'ailleurs, dans le séminaire doctoral, dans le séminaire de recherche, il y avait quantité de post-doctorants. C'est-à-dire des gens qui avaient passé leur thèse. C'était un classique, ça. Hein. Chez les grands professeurs, il y a toujours d'autres professeurs, d'autres jeunes professeurs et moins jeunes professeurs qui viennent, qui ont été des élèves et qui continuent de venir, parce que c'est un lieu, en fait, où on pense, où on essaye de travailler ensemble et on essaye de chacun d'entre nous, de constituer notre propre cheminement.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux catégories de philosophe? Parce qu'au fond, ce que nous dit là Pierre Magnard, il y a une certaine humilité dans son approche de la philosophie. Il dit « j'apprends aux autres à penser ». Est-ce que ça veut dire qu'il y a des philosophes qui essayent de créer, de concevoir leur système philosophique, et d'autres qui se disent que leur vocation philosophique, c'est de transmettre ce savoir-penser?
C'est extraordinairement compliqué de définir ce qu'est un philosophe, mais généralement, on va dire, on considère qu'il y a deux mouvements et qui sont ceux-là, c'est-à-dire un premier mouvement plutôt d'historiographie de la philosophie, c'est-à-dire plutôt quelque chose qui va renvoyer vers une capacité de vous positionner à l'intérieur d'une continuité philosophique, donc de raconter, d'être aussi, d'avoir été le lecteur des autres systèmes, éventuellement de les transmettre, de les faire comprendre, et c'est tout un aspect plus professoral. Bon, et puis l'autre temps, mais qui est aussi absolument constitutif, et c'est le cas aussi chez Magnard ou chez Jean Bay, c'est de produire, pas nécessairement un système, au sens système fermé, mais de produire des outils, des concepts, et d'inventer un nouvel acte dans cette grande histoire de la philosophie. Et le philosophe, il fait les deux. Sinon, vous n'êtes soit que un professeur de philosophie, c'est déjà très bien, mais en l'occurrence, vous faites ce parcours-là, soit, je ne sais pas, un essayiste, quelqu'un qui traverse l'univers des arguments, mais sans nécessairement se référer à la méthodologie de la philosophie. Et voilà, et donc le philosophe, il tente d'articuler les deux.
Alors, vous avez soutenu votre thèse en 2000 à la Sorbonne en métaphysique-ontologie et votre mémoire s'intitulait « Métaphysique de l'imagination » sous la direction, donc on vient d'en parler, de Pierre Magnard. Cela me fait penser qu'il y a quelques minutes, vous nous avez dit « Moi, je n'ai jamais produit de la fiction, j'ai besoin de la fiction dans ma vie et c'est quelque chose que je place au-dessus de tout, mais vous-même, vous n'avez pas produit, vous avez produit bien d'autres livres, mais pas de la fiction. » Est-ce que précisément, c'est parce que vous considérez que vous n'avez pas d'imaginaire que vous avez décidé de vous intéresser à l'imaginaire lorsque vous avez choisi votre sujet de thèse ?
Peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui m'intéressait, c'était... oui, parce que c'est drôle d'être... Mais c'était la fonction agente, en fait, de conceptualisation qu'est l'imagination. Et donc la différenciation qu'il pouvait effectivement y avoir entre ce qu'on appelle l'imagination qui fait la folle et qui peut dériver vers, le fameux imaginaire, et puis l'univers d'abstraction... malgré tout, de pré-conceptualisation, de mentalisation, et qui est à la fois une démarche exploratoire et possiblement l'avant d'une démarche de validation qui va être celle plus spécifiquement de la raison, etc. Mais la thèse que j'ai faite, elle est véritablement sur la fonction agente cognitive noétique de l'imagination. Et donc j'étais un enfant, entre guillemets, de l'imagination transcendantale chez Kant. Et en revanche, après, j'ai traversé différentes traditions qui, au lieu de diviser l'imagination et la raison, au contraire, travaillaient plutôt à les articuler. Et d'où la notion de métaphysique de l'imagination.
Alors ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la HDR. Je vous laisse expliquer ce que c'est parce que je vais dire des bêtises et les universitaires qui sont dans la salle ne me le pardonneront pas.
C'est l'habilitation à diriger les recherches.
Voilà, et cette fois, vous avez travaillé sur le thème « La construction sociale de la vérité dans l'espace public à l'épreuve des nouvelles technologies d'information et de communication ». Est-ce que ça veut dire que cette fois, vous n'étiez plus dans l'imaginaire, mais bel et bien en train de descendre au cœur de la cité ?
C'est comme ça que ça a été présenté. Le jour de la soutenance, en tout cas.
Ah oui ?
Non, je rigole, mais je veux dire par là que on voit d'ailleurs au fil du temps, je dirais
la cohérence ou le...
Oui, la cohérence, mais aussi la négociation, je dirais. La cohérence, parce que de fait, je défends une vraie cohérence, mais au fil du temps, l'apprentissage de la négociation, c'est-à-dire métaphysique de l'imagination, vous voyez qu'il y a peu de négociation. Donc c'était c'était un sujet intégralement sans doute défini par moi-même et moi-même. Et puis la construction de l'espace public à l'aune des
TIC. Il s'agissait d'aller se confronter aux autres.
ça s'appelle confrontation avec le monde, confrontation avec Donc ce qui m'intéressait là, puis malgré tout, c'est que petit à petit dans mon travail s'est tissé un lien et une volonté de travailler sans cesse sur cette dialectique entre l'individu et le collectif. Et puis encore une fois, premier grand territoire, la symbolisation, le langage, l'imagination au sens du style, et puis un autre grand territoire du langage qui est celui de l'espace public, qui est celui de, tiens, comment on fait du langage, de la parole, du logos, un outil de régulation démocratique. Et l'air de rien, j'ai essayé de tisser entre la thèse et l'HDR ce cheminement.
Vous avez cheminé et vous êtes vraiment devenue à ce moment-là une philosophe au sens platonicien du terme, c'est-à-dire précisément qui rentre dans la vie de la cité, l'homme ou la femme philosophique est un homme ou une femme politique chez Platon. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là ou dans les années qui suivent qu'on a vraiment le sentiment que non seulement vous êtes une philosophe dans la cité, mais vous êtes aussi une philosophe qui a des engagements, aujourd'hui encore, on pourrait les citer, ils sont nombreux, l'engagement européen avec Europa Nova, l'engagement pour le climat avec la Fondation Hulot. Vous avez aussi participé à la création d'un mouvement ou d'un parti politique, Nouvelle Donne, avec Pierre Laroutour et Edgar Morin. À quel moment s'est accentué ce besoin d'être dans la cité, de participer, de vous engager dans la cité?
Alors, je le dis souvent, ça ne sert pas à grand-chose, mais ce n'est pas grave, je vais le redire un tout petit peu. Moi, je suis membre fondateur du collectif Roosevelt. Le collectif Roosevelt, c'est la proto-organisation, si j'ose dire, de Nouvelle Donne. Mais Nouvelle Donne n'est pas le collectif Roosevelt. Et si, non seulement j'ai participé, mais on a fondé à plusieurs, avec Edgar Morin notamment, le collectif Roosevelt, nous n'avons pas ni participé, ni fondé Nouvelle Donne. Nous n'étions pas du tout ennemis, mais en l'occurrence...
Et pour vous, c'est deux démarches parallèles.
En tout cas, moi, pour le coup, je ne me suis jamais posé cette question, mais fondamentalement, je n'ai jamais choisi le fait de créer un parti où, voilà, donc pour le coup, Nouvelle Donne, les chemins se sont séparés à ce moment-là, même si, encore une fois, il n'y avait absolument pas de conflictualité, mais c'est des chemins différents. Mais en revanche, l'engagement dans la cité, c'est pareil, je ne l'avais pas... anticipé ni désiré. Il s'avère que, malgré tout, quand vous travaillez sur la philosophie politique, la philosophie morale, quand vous travaillez sur la question des institutions démocratiques, et puis aussi des émotions, alors des émotions individuelles, mais peut-être demain des émotions démocratiques, comme pourrait dire Martha Nussbaum, à un moment donné, vous vous trouvez de toute façon dans cet espace. Et la question, c'est de savoir comment vous vous engagez dans cet espace. Mon travail a été de m'engager dans cet espace, malgré tout en tenant ce que j'étais, c'est-à-dire un enseignant-chercheur, et qui essaye, que ce soit dans l'espace public ou que ce soit dans l'autre grand espace politique qui s'appelle celui de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, de faire mon travail. Donc, mon engagement, il est celui-là.
Et vous n'auriez jamais pu aller au-delà?
Je crois pas.
C'était très clair dans votre esprit.
C'était absolument clair que ce qui était déterminant pour moi, c'était précisément de travailler sur l'amont, si vous voulez, et pas nécessairement sur le politique dans sa version politisée d'exécutif gouvernemental. Je pense que le politique au sens d'édification d'une cité, et ce qui est pour moi ce qui m'intéresse le plus, c'est l'éducation. Ouais. Donc, résultat, je me suis dirigée politiquement sur ce territoire-là qui me paraît être plus probant.
Alors en 2005, vous publiez un livre chez Fayard dont je me souviens bien qui s'appelait « Les pathologies de la démocratie » et un titre qui disait déjà très bien au fond beaucoup de la façon dont vous étiez en train dans votre vie de faire se rejoindre la psychanalyse et la philosophie politique. Alors est-ce que là encore, pardon, on va faire appel à votre mémoire, vous savez situer ce moment précis où ces deux domaines-là se rencontrent?
Il y avait un grand programme, je crois même que je l'ai écrit dans l'avant-propos des pathologies de la démocratie, il y avait un grand programme européen sur les pathologies du politique. Et pour le coup, j'étais déjà par ailleurs, depuis plusieurs années, en cheminement totalement personnel. Mais là, pour le coup, ce qui m'a intéressé, c'était de resserrer un peu. Les pathologies du politique, c'était quelque chose qui était trop vaste pour moi. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais non, là il y a un objet qui va m'intéresser davantage, à la fois aussi parce que je travaillais déjà sur ces notions de d'imaginatio vera, de precium doloris, de vis comica, qui sont chez moi trois figurations de l'individuation. Donc j'avais déjà ça dans ma besace, entre guillemets. Et là, se passait au niveau européen un programme sur les pathologies du politique. Et donc, moi, je me suis... mon directeur de recherche à ce moment-là, dans mon laboratoire, je lui ai signifié que, pour ma part, j'allais travailler sur les pathologies de la démocratie. Et donc, ça a commencé comme ça.
On a le sentiment que c'est sans doute à ce moment-là que vous avez vraiment trouvé, alors je ne sais pas s'il faut parler de système, vous allez me répondre, en tout cas votre cohérence absolue, c'est-à-dire ce moment où en vous, la philosophe décide de devenir psychanalyste et par ailleurs met la psychanalyse ou la pathologie au cœur de son travail philosophique.
Oui, en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que la ligne de mon travail est apparue sans doute plus clairement pour d'autres. Et puis, alors, pour moi-même, pas nécessairement, puisque bon, c'est pas, ça se pose pas comme ça. Mais à partir de ce moment-là, voilà, les premiers ouvrages ont commencé à résonner différemment parce qu'ils trouvaient leur place dans une construction qui était à la fois plus ouverte et en même temps plus lisible pour les autres. Ce qui est assez logique d'ailleurs, si vous voulez, d'abord parce que en faisant, on trouve ça, heureusement, sa propre cohérence, et aussi parce que ce qui vous guide, en tout cas moi, peut-être pas pour tout le monde, mais ce qui vous guide dans l'écriture, c'est, en tout cas moi, mon premier temps, c'était déjà d'écrire, si vous voulez, de faire descendre les différents points de vue qu'il y avait dans ma tête, etc., etc. Et ça, je dirais que la notion de lisibilité même de mon travail et de la formalisation de la cohérence de mon travail n'était pas ma première question. Quand je fais métaphysique, Mallarmé, etc., moi je la connais. Mais je veux dire par là que c'est pas... Dans un deuxième temps, vous vous souciez d'être lu. Moi, le fait d'être lu était une... Bien sûr, mais il fallait écrire d'abord, et il fallait déjà conquérir ce point-là. Et conquérir ensuite la lecture de ses écrits est arrivé plus tard. Et c'est arrivé avec le fait que, voilà, j'ai essayé d'expliquer ce que j'étais en train de faire, alors que je ne l'expliquais pas.
Vous pouvez revenir sur ce moment où vous dites « je suis psychanalyste ».
Alors ça s'est fait un peu en différents temps. Donc moi je suis entrée en analyse, j'étais jeune, et avec pas du tout. J'ai fait deux choses où vraiment j'étais pas du tout partie pour faire ce que j'allais faire plus tard. L'analyse, puisque quand je suis rentrée en analyse, on m'a très vite signifié que tiens, je pourrais éventuellement être psychanalyste, parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans. Donc, j'avais je vais le nommer, Pierre Fédida, qui a été philosophe. Enfin, il n'a pas été philosophe, mais il a une formation philosophique. Donc, d'emblée, il m'a dit, voilà, vous êtes sur un chemin de thèse, faites un double cursus. Bon, moi, ça m'a...
Et pour vous, c'était inconcevable? Non, c'était trop lourd.
Bah, je sais pas si... Je pense que pragmatiquement, je me suis dit, mais ça va pas, non? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Et puis, dans un premier temps, je me suis dit, mais pas du tout. Moi, je suis, c'est un territoire intime. Enfin, je suis pas du tout là pour ça. J'ai refusé ça, j'ai résisté à ça. J'ai considéré même que, bon. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point où j'ai dit non, merci, c'est pour l'enseignement. Donc, en thèse, on m'a demandé si je voulais enseigner, j'ai dit non, certainement pas. Bon, ben, donc j'ai raté, je dirais, de façon quand même considérable, et ça, et le fait de ne pas avoir, d'être devenu par la suite analyste. Alors comment ça s'est fait? Ça s'est fait ben, justement au moment des pathologies de la démocratie, où... donc je continuais moi un parcours voilà classique
d'universitaire ayant fait une thèse,
voilà, et puis j'ai commencé à travailler avec de plus en plus de collègues qui n'étaient pas des collègues de mon champ. qui étaient plutôt des sociologues du travail, et puis petit à petit des psychodynamiciens, donc qui travaillaient sur la psychodynamique de la souffrance au travail, etc. Et donc, résultat, bon, je vous passe vite, mais la confrontation des points de vue, ceci, cela, tout d'un coup, je me suis posé la question, et on m'a reposé la question, de devenir analyste. Et à ce moment-là, je suis re-rentrée dans un parcours pour devenir analyste. Et mon premier patient, en fait, était un patient qui m'avait repéré il y a peut-être 2 ans avant, en me disant, je vais faire une analyse avec vous. Je lui ai dit, mais c'est très bien, mais moi, je ne suis pas analyste. Donc, 3 ans avant, ou je ne sais plus. Et il me dit, ah oui, non, mais je suis sûre que ça va venir. Mmh. Et je dis, oui, mais non. Enfin, bon, bref, passons. Ça, c'est des histoires.
C'était un élève ou...
Pas du tout, c'était un médecin. Mmh. Et qui était plus... enfin bref. Et donc ça s'est fait comme ça. Et puis voilà. Et puis c'est arrivé donc tardivement dans mon parcours. Mais aujourd'hui, on va dire que ça correspond à une petite dizaine d'années, quoi.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, la psychanalyse, c'était quelque chose que vous teniez vraiment en dehors du champ des sciences humaines et de la philosophie ?
En tout cas, il faut croire que oui. Ce qui était absolument pas vrai dans mon corpus, puisque j'ai lu très très tôt les psychanalystes ou les psychiatres théoriciens. Oui. Donc ça, je les.
Ou tous ces philosophes qui parlent de la psychanalyse.
Exactement. Donc je n'avais pas cette séparation au niveau des corpus, mais en revanche. Voilà, j'arrivais d'un territoire qui est celui de la philosophie. Et aujourd'hui encore, hein, c'est vrai que je dis souvent plutôt analyste que psychanalyste, parce que j'ai un travail presque de philosophe clinicien ou clinique que exclusivement de psychanalyste. Donc, mais il s'avère que, à la différence de certains collègues philosophes, il y a un terrain clinique chez moi et il y a un colloque singulier, régulier, voire journalier avec.
Ouais. On va y revenir justement à cette dimension-là, à ce qui se passe ou ce qui se joue aussi dans l'intimité de ce cabinet-là. Est-ce que il y a d'autres philosophes, psychanalystes qui vous ont inspiré?
Oh, et quantité. Alors que ce soit parmi les morts, ou que ce soit parmi les vivants. Donc, je sais pas, moi, les morts, ils sont assez nombreux dans tous mes ouvrages. J'y reviens sans cesse, que ce soit Foucault, Jankélévitch, Adorno, je les cite dans Karl Popper, Binswanger, je sais, enfin bref.
En effet, vous citez souvent Michel Foucault, et voilà. Notamment dans Les mots et les choses, qui reconnaissait à la psychanalyse une position quasiment transcendantale dans les sciences humaines, en tant qu'elle interroge, je le cite, la région qui rend possible en général un savoir sur l'homme.
Oui, et puis même Castoriadis qui dit des choses assez sensiblement similaires. Enfin, bref, donc il y a tous ces auteurs là qui, bien sûr, sont totalement déterminants. Et puis dans les collègues contemporains, là aussi, il y a quantité de camarades de route qui sont absolument nécessaires. D'ailleurs, et pas que philosophes. Ça peut être des anthropologues, ça peut être des sociologues, ça peut être des psychanalystes. Donc ça, c'est le compagnonnage avec les auteurs de votre temps, il est aussi extraordinairement important. Moi, je lis beaucoup mes contemporains.
De la maladie de l'âme à la maladie d'une société ou d'une époque, du moins ses pathologies. Cela m'amène à La fin du courage, le titre de l'un de vos ouvrages récents, ou À Sigil la mer. D'abord, peut-être, voulez-vous nous résumer l'ambition de ces deux ouvrages-là qui forment vraiment une espèce de continuum?
Oui, alors que ce soit La fin du courage, que ce soit Les irremplaçables, que ce soit Sigil la mer, que ce soit Le soin est un humanisme, de fait, c'est assez simple. C'est dans l'héritage de la théorie critique, justement, d'Adorno, jusqu'à Axel Honneth, travailler et identifier les nouvelles formes, les nouveaux processus de réification de l'individu, Bon, la réification étant le principe de chosification. Pour ma part, j'ai expliqué que la notion de remplaçabilité, voilà, venait continuer comme d'autres ont parlé d'invisibilisation, etc. Bon, mais, donc ça c'est un premier point, c'est où se situent encore ces processus qui viennent destituer le sujet. La puissance agente d'un individu. Donc ça c'est un premier point que vous trouvez dans La fin du courage, enfin partout. Et puis le deuxième point, c'était de dire attention, attention, parce que bien évidemment ça produit de la souffrance. Voilà, on l'a tous vu ces derniers temps, de l'érosion, du découragement, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, cette souffrance ne sera plus, entre guillemets, endiguée et symbolisée, si vous voulez, puisque l'individu lui-même n'aura plus la capacité. Et or, on pense que ces formes de réification collective, elles vont détruire, entre guillemets, l'individu. Et en fait, non, oui, dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, cet individu réifié, qui s'est considéré remplaçable et qui, dès lors, a basculé dans une non-sublimation de ce sentiment, mais donc, en gros, dans un passage à l'acte, soit contre lui-même, soit contre les autres, il ne sera plus à même de désirer l'état de droit, et il ne sera plus à même, la traduction politique de ce ressentiment, ou la traduction politique, à un moment donné, de cette conscience victimaire exacerbée, ce ne sera pas un agir politique au sens où nous nous l'entendons dans l'espace démocratique. Et donc à ce moment-là, c'est pas simplement l'individu qui est mis en danger, c'est la société dans laquelle nous vivons qui est mise en danger. Et donc tous ces livres racontent comment, à la fois de manière individuelle, comment on peut trouver, créer les outils pour résister, endiguer la pulsion ressentimiste, et comment, de l'autre côté, comme s'il y avait un double impératif éthique, moral, politique, un du côté de l'individu et de l'autre côté du côté des institutions, comment l'enjeu pour un État social de droit, c'est de venir tout simplement créer tous les outils possibles, institutionnels, non institutionnels, pour sublimer et surtout pour ne pas renforcer, ne pas créer des conditions objectives du ressentiment. Et donc c'est toute la question des inégalités, des politiques publiques pour endiguer cela, etc. Mais c'est aussi un petit biais posé qui est de dire, mais attention, si l'enjeu principal pour les institutions, c'est de devenir des forces de sublimation de la pulsion ressentimiste, ce que je pense, ça veut dire que nécessairement, quelles sont ces forces de sublimation ressentimiste ? En l'occurrence, dans la philosophie, dans l'histoire, dans la psychanalyse, elles ont été posées. Et elles sont posées, non pas du côté des protocoles, si vous voulez, elles sont posées du côté de la culture, du côté des médias, du côté de l'éducation, du côté de la santé. Donc c'est quand même un biais imposé à la manière dont nous voyons nos politiques publiques et comment nos politiques publiques, elles doivent encore et encore, encore une fois, hein, dans un régime démocratique basé sur une société des individus, ben oui, la question de l'éducation de nos pulsions, la question de l'éducation de cette raison, mais aussi des émotions et de la manière dont on va conduire nos émotions individuellement et collectivement, c'est une question importante.
Est-ce que cette pulsion ressentimiste sur laquelle vous travaillez, sur laquelle vous écrivez, ou cette société amère, vous la rencontrez aussi tous les jours, ou en tout cas quand vous recevez dans votre cabinet de façon individuelle? Est-ce qu'au fond, vous retrouvez cette amertume de façon individuelle et ensuite dans la société telle que vous l'observez?
Oui, alors c'est tout à fait clair que dans la séance analytique, vous avez tout. Vous avez effectivement des patients qui vont être dans le ressentiment et en même temps qui sont capables de le diagnostiquer et qui éventuellement sont capables de le dépasser, ou alors à l'inverse se trouvent enlisés dedans et vous les accompagnez pour ce dépassement. Donc ça, c'est un premier voilà. Vous avez des patients qui ne sont pas dans le ressentiment, alors qu'ils peuvent par exemple traverser des véritablement des conditions objectives de ressentiment, mais ils n'y sont pas.
Chagrin n'est pas forcément le ressentiment.
Exactement.
Ou le chagrin n'est pas forcément la colère. Traverser,
mais même être dans des stress dits post-traumatiques. Donc c'est là où on voit bien que les deux peuvent exister. C'est-à-dire à la fois le fait de traverser objectivement des conditions qui viennent renforcer le ressentiment et d'y être soi-même, ou de ne pas y être, et à l'inverse, de ne pas traverser des conditions et d'y être quand même, pour différentes raisons. Donc tous les schémas sont envisageables. En revanche, là où la séparation se fait, parce qu'on pourrait dire, bon, bah, après tout, tout est possible, et puis tel chemin vaut tel autre, pas tout à fait, parce que là, c'est à la fois ce que je peux, souligner, enfin ce que je peux remarquer en tant que clinicienne ou en tant que philosophe, c'est de dire non, à partir du moment où le sujet est pris au piège, comme Max Scheler l'a dit dans d'autres temps en 1912, donc ça fait un petit moment. Dans cet auto-empoisonnement, dans cette rumination victimaire, dans cette fixation dans la colère. Hein. C'est ça la différence entre le ressentiment et la colère. La colère, chacun la connaît, on la traverse. À un moment donné, la différence, c'est quand, alors que le contexte de la colère est passé, se maintient un sentiment de colère, se maintient un sentiment d'envie, se maintient une obsession comparatiste, se maintient un délire victimaire. Et c'est ça qui, tout d'un coup, cette essentialisation-là, c'est de savoir si cette essentialisation-là, elle va être un territoire, un outil thérapeutique pour l'individu et pour la société, ou à l'inverse, si ça ne va pas être le cas. Et mon hypothèse, c'est de dire que non. Que à partir du moment où le sujet va se laisser entraîner et dans cette pulsion ressentimiste, il est en fait en danger, terriblement, et il va être de moins en moins capacitaire, même s'il croit l'être. Et puis de l'autre côté, si la société bascule dans ça, pareil, elle va produire des simulacres d'agir politique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va bien sûr dire que c'est un agir politique, ce ressentiment, mais en fait, ça ne le sera pas. Ça sera simplement la violence, qui, par ailleurs, dans l'histoire, a toute sa place. Hein, donc, mais la question, c'est de savoir, est-ce que nous, demain, nous voulons produire un agir politique qui est celui du domaine de la sublimation du ressentiment, ou est-ce que nous produisons, en fait, un agir politique qui n'a de politique que le nom et qui est, en fait, la violence.
Ou est-ce que nous nous résignons à ce que certains s'enferment dans ces logiques victimaires ou que des partis s'en emparent ?
Tout à fait, l'instrumentalisent.
On sent que vous avez, vous, trouvé votre cohérence en passant de l'observation de ces pathologies sociétales à ces pathologies individuelles, mais que pour autant, vous n'avez pas envie que votre personnage public, parce que, bien sûr, vous êtes une philosophe qu'on invite dans des émissions de radio, dans des émissions de télévision, et que vous n'avez pas non plus envie de devenir ce que je pourrais appeler une psychanalyste des phénomènes sociaux. Si l'on vous invitait, par exemple, pour commenter, on s'en souvient, il y a quelques mois, l'actualité des Gilets jaunes ou de telle ou telle manifestation, on a le sentiment que toujours, vous souhaitez mettre à distance et produire une réflexion qui ne va pas juste mettre des mots sur ces faits d'actualité-là. C'est compliqué, j'imagine, de trouver la bonne distance.
Oui, c'est compliqué, puis j'y arrive peut-être pas toujours. Mais le but, c'est d'essayer d'abord de ne pas avoir de vision psychologisante de l'histoire, parce que ce serait faux et insuffisant. Et en même temps de proposer malgré tout des outils pour penser ensemble quelque chose. Mais c'est vrai que ce jeu de réductionnisme qui consiste à inviter éventuellement tel ou tel à produire un jugement bien évidemment, qui est nécessairement insuffisant en plus. Et puis, encore une fois, pour le coup, ce n'est pas le lieu. Et puis, ce qu'est un être humain et ce qu'il va produire en tant que discours, en tant que politique, etc., c'est pas du tout la même chose. Bon, donc, bien évidemment, on m'invite à réagir à des discours. Donc, ça, en revanche, je peux essayer de dire, bah oui, tel discours va plutôt aller instrumentaliser la peur, etc. Mais c'est vrai que on est à un moment tendu où l'enjeu, je pense, l'enjeu, c'est vraiment de produire des outils possibles pour ne pas renforcer cette tension qui, encore une fois, moi, je défends vraiment. Hein, l'espace démocratique est un espace de conflictualité. Il y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est pas ça. Mais en revanche, c'est un espace de symbolisation de conflictualité. Ce n'est pas un espace où... c'est-à-dire que dans l'espace démocratique, notre conflictualité, si vous voulez, malgré tout, elle est protocolarisée, si vous voulez. Elle renvoie à un système de protocole. Pourquoi ? Parce que ce ne doit pas être la finalité. Sinon, ça s'appelle la stasis, c'est-à-dire la guerre civile, ou ça s'appelle le polémos, c'est-à-dire la guerre à l'extérieur. Et donc, c'est comment... Alors, donc, la tension est compliquée, bien sûr, mais c'est comment nous produisons, à la fois individuellement et en même temps collectivement, des forces de symbolisation de cette conflictualité. Et c'est ça, l'espace politique.
Mais lorsque l'on travaille tous les jours sur ces sujets... J'imagine que c'est compliqué justement de ne pas partir aussi de certains faits d'actualité pour venir illustrer ce qui sont pour vous des concepts ou des raisonnements extrêmement théoriques. Je parlais tout à l'heure de ce mouvement des Gilets jaunes. Peut-être on pourrait citer bien sûr d'autres mouvements sociaux de ces 10, 15, 20 dernières années. Est-ce qu'il ne serait pas utile pour vous de vous en saisir parfois pour démontrer la validité de vos raisonnements ?
Mais je le fais, mais je le fais d'abord pas nécessaire. Tout dépend comment. Bien évidemment le faire, mais dans des espaces, comme dit Foucault, parésiastiques, c'est-à-dire où il est possible à un instant T d'avoir un temps commun, d'avoir la possibilité éventuellement de définir des points de raisonnement, de les mettre en partage, de les soumettre à la critique, etc., etc. Et tout ça demande un temps qui n'existe plus beaucoup. Qui existe bien évidemment dans la réalité, mais qui n'est plus mise en scène, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que c'est essentiellement l'espace cathodique qui vaut pour l'espace public, et que tous nos espaces publics communs sont des espaces de plus en plus rétrécis dans le temps alloué à ces endroits.
Claire, vous n'irez pas parler de la pulsion ressentimiste sur les plateaux des chaînes d'information en continu.
C'est difficile. Reconnaissez que c'est pas simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène de dénaturation de votre langage qui est pas simple, et donc
de simplification à l'extrême.
Il faut tenter, mais c'est quand même quasiment un problème. En revanche, on peut, et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a quantité d'autres lieux où on peut restituer cette parole. Et d'ailleurs, on le voit.
C'est ce qu'on est en train de faire. Cela dit, j'imagine que vous êtes en permanence très attentive à tous ces champs lexicaux de la colère qu'on utilise de plus en plus dans les médias. La colère, c'est un mot qu'on entend quasiment un jour sur deux pour certains titres ou une de journaux d'actualité. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a, me semble-t-il, une tentation de pathologiser de plus en plus certains faits d'actualité. Je pense par exemple aux attentats, à l'actualité des attentats. De plus en plus, on va chercher la motivation pathologique. On va dire c'est l'acte d'un déséquilibré dès lors qu'un attentat n'est pas revendiqué, par exemple, par Al-Qaïda ou par Daesh. Cette pathologisation des faits d'actualité, des faits de violence dans l'actualité, qu'est-ce qu'il vous inspire comme réflexion, comme commentaire ?
Oui, non, c'est vrai que moi, mon travail, il est à l'inverse de plutôt toujours voir quelles sont les manières pour un sujet de préserver sa responsabilité et donc son accès à sa responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est en préservant cela qu'on préserve sa liberté, ou en tout cas l'illusion de sa liberté, puisque je ne sais pas si on est libre au sens réel du terme, mais au minimum, cette exigence, ce principe régulateur de penser qu'il y a un sujet, je me situe de ce côté-ci. Et donc, si je me situe de ce côté-ci, je vais traquer dans les histoires personnelles et dans les histoires collectives tout ce qui peut accompagner cela. Donc ça, c'est mon travail en tant que psychanalyste ou en tant que qu'enseignant. Donc ensuite, vous avez tout l'univers qui est celui, encore une fois, de la création collective et de ce qui peut se jouer pour, je vous l'ai dit, prendre soin et rendre capacitaires ces individus. Donc voilà, moi c'est ça que j'essaye entre guillemets de faire.
Comment est-ce que vous organisez votre semaine au fond ? Comment est-ce que l'on structure sa semaine pour, comme vous l'avez dit souvent, écrire tous les jours, écrire des livres, recevoir ses patients, produire une œuvre ?
D'abord, je sais qu'on, enfin, vous avez dit tout à l'heure, vous écrivez régulièrement, etc. Si on veut être honnête, j'écris totalement régulièrement. Tous les jours. Donc ça, de fait, j'écris un nombre de signes tous les jours. Bon, ça, c'est parce que...
Vous définissez un nombre de signes ?
Oui, mais parce qu'on est à la psychorigidité qui est la sienne.
Vraiment. Et donc... est ce nombre de signes ?
16 000.
16 000 signes tous les jours ?
Oui.
Qu'il neige, vente, que vous soyez malade, en forme, très bien.
Voilà, bon, donc maintenant,
c'est
voilà.
C'est très exigeant, en effet.
Je ne sais pas si c'est très exigeant ou si c'est très obsessionnel. Mais,
ou les deux.
C'est pas nécessairement très exigeant, parce que je n'ai pas dit que je faisais 16 000 signes de qualité. Je fais 16 000 signes. Donc c'est très, très important.
Très intéressant.
C'est très important parce que chacun attrape la réalité de l'écriture comme il peut. Et je l'ai attrapé dans un premier temps par le quantitatif.
Depuis quand vous vous fixez ?
Depuis l'âge de 17-18 ans. Donc, j'avais pas 16 000 signes au départ. J'avais 8 000.
Vous avez augmenté la dose.
J'avais 8 000 au départ. Et puis je suis allée jusqu'à plus que. Donc 20, je suis allée jusqu'à 24. Et là, je me suis dit, je vais me faire mal. Donc,
16 000, c'est l'équilibre.
Donc, je suis redescendue à 16, en disant, je me mets en... Voilà, 16, je sais que je peux.
Donc, ça veut dire que c'est sur 24, un ordinateur.
24, bien sûr, je peux. Mais
ça veut dire que vous écrivez sur un ordinateur pour pouvoir comptabiliser les
signes. Oui, tout à fait. Et donc ça, je le fais. Voilà, ça, c'est fait. Et ensuite, je reprends, etc. Mais au moins, ça, c'est de la production... d'écriture dédiée à une tentative de comprendre quelque chose, à quelque chose. Voilà, ça, c'est ça. Après, moi, j'écris beaucoup, beaucoup plus pour les cours, les machins, mais ça n'a rien à voir. C'est très, très différent, ces écritures. D'ailleurs, je dis les écritures, quant à moi, des écritures, et ça veut dire, le tout venant, puisque de toute façon, quand vous enseignez, vous écrivez beaucoup.
Oui. Hein, donc, c'est le cours, l'article.
L'article, machin, ça. Donc ça, je sors ça. C'est pas de ça dont je parle. Donc, je fais ce point tous les jours, plutôt le matin, tôt, et voilà. Mais un point quand même important, c'est que si vous regardez, vous ne l'avez pas fait, vous avez eu raison, mais je vous le dis, moi j'ai publié en gros un livre tous les 5 ans, ça fait pas partie des rythmes non plus délirants, des rythmes.
Mais ça veut dire que c'est aussi une périodicité que vous avez prédéfinie. Tous les 5 ans, je dois publier un livre. Alors, c'est un peu comme les 16 000 signes.
C'est je ne suis pas arrivée à faire moins, parce que bien sûr on vous invite à faire les ans, puis deux, puis trois, et que à un moment donné, c'est ça le principe de négociation, c'est que cinq, j'y suis arrivée. À peu près. Et puis j'essaye de me tenir. Naturellement, je pourrais espacer beaucoup plus. Je préférerais d'ailleurs, ça produirait sans doute des meilleurs ouvrages. Mais Ça s'est fait comme ça. Donc, c'est un temps malgré tout. Les Irremplaçables, c'était 2015, et à la fin du Courage 2010, les Pathologies 2005, Métaf physique 2000. C'est comme ça, quoi. Voilà. Je savais pas qu'on allait parler de tout ça. Je pensais qu'on allait faire Sigy la mer et tranquille.
Maintenant, c'est une masterclass. C'est pas une matinale de France Culture. Mince. Pour terminer cet entretien, mais c'est presque fini, rassurez-vous. Et on a balayé comme ça, je sais pas si on a balayé les étapes tous les 5 ans dans votre existence depuis 1974, mais il me semble en tout cas qu'on n'a pas manqué les points de rupture ou d'évolution importants. Et justement, peut-être, j'aimerais pour terminer vous ramener au début de cet entretien. Vous avez expliqué que déjà petite, vous avez eu cette habitude d'écrire et qu'accéder à l'imaginaire ou à la fiction était quelque chose d'impossible. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez totalement renoncé ? Ou est-ce qu'au fond, vous vous dites que peut-être un jour, ces 16 000 signes, ils pourraient être consacrés à de la fiction, à un roman, à une nouvelle, à de la poésie ?
Non, je n'ai pas renoncé. Maintenant, il y a plusieurs manières de renoncer. Je veux dire, on peut renoncer de façon très verbalisée. Et puis, on a hélas des renoncements qui sont plus lâches. C'est peut-être celui qui est le mien. C'est-à-dire que je ne l'ai pas verbalisé. Mais malgré tout, une écriture, ça s'entraîne, ça se constitue, ça s'éprouve. Produire un roman, produire de la fiction, c'est un travail immense, de la poésie encore plus. Donc, et je vois bien que l'écriture qui est la mienne aujourd'hui, elle n'a pas ce niveau-là, si vous voulez, elle est sur d'autres territoires. Donc je n'y ai pas renoncé, mais reconnaissons que j'ai un entraînement faible, voire inexistant, pour arriver à éventuellement à réussir cela. Maintenant, on verra peut-être que avec l'enseignement, je pense que c'est un peu compliqué parce que ça prend quand même, ça vous prend beaucoup. Peut-être qu'après, plus âgé, j'arriverai à aller sur ce territoire-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire de produire un roman qui fait exactement la même chose quand même qu'une œuvre philosophique. C'est-à-dire, ça raconte le réel, le monde, mais ça c'est vous-même qui allez dessiner le chemin conceptuel. Donc, c'est extra. Vous avez toujours raison, en fait, si vous voulez, si vous réfléchissez bien. Ils sont bien plus futés que nous, les écrivains. Parce que, de fait, vous lisez un roman, tout est juste. Tout est. Alors que vous.
Ce serait presque
trop. Prenez un biais et. Ouais. Ah, mais non, c'est pas comme si.
Ce serait
pas comme
presque ça, c'est trop pas agréable pour vous, en fait.
Mais non, mais c'est extra. En fait, c'est la vraie science. C'est la vraie science systémique parce que précisément, elle rend invisible, ces outils, et elle a une capacité de synthèse qui passe par le style, et donc nécessairement rien ne se ferme, si vous voulez, et donc voilà. Donc pour moi, c'est vrai que la littérature elle est philosophique structurellement parlant.
Eh bien, moi, je pense qu'un jour, vous y accéderez. En tout cas, j'adorerais vous voir revenir un jour devant ce micro pour nous parler de votre premier roman. En attendant, merci beaucoup, Cynthia Fleury, de nous avoir accordé cette masterclass. Merci aux équipes techniques de France Culture qui l'ont rendue possible. À bientôt sur cette antenne.
C'était la masterclass de Cynthia Fleury avec Émilie Aubry. Coordination Christine Bernard, attachée d'émission Sylvia Favre, prise de son Pierre Bornard, Georges Thau, réalisation Clotilde Pivin.